Viens, Esprit Saint, remplis le cœur de tes fidèles. Allume en eux le feu de ton amour. Envoie ton esprit et tout sera créé et tu renouvelleras la face de la terre. Seigneur, quand tu mets en l'homme ton Esprit Saint, tu illumines son cœur et tu l'instruis. Rends-nous dociles à ton esprit pour apprécier ce qui est juste et donne-nous d'éprouver toujours le réconfort de sa présence. Nous te le demandons par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Alors, donc, il m'a été demandé de vous parler des dons du Saint-Esprit. Et puis, alors, ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est de voir que le thème général de votre ici, c'est l'action de l'Esprit-Saint dans la vie des saints. Dans l'action de l'Esprit-Saint dans la vie de tout baptisé. Nous sommes tous appelés à la sainteté. Voilà. Alors, je peux dire que sans l'action de l'Esprit-Saint, je ne serais pas ici. Et beaucoup de... Je pense que chaque frère de la communauté pourrait affirmer la même chose. Voilà. C'est les dons de l'Esprit-Saint qui m'ont donné la force, le goût d'abord, le goût, la force de m'engager dans cette aventure.
Voilà. Alors, Père, je vous interromps juste une minute, vous sortez un bic, hein, vous notez les dons de l'Esprit Saint, et puis vous notez les choses merveilleuses que le Père va nous dire, hein, parce que c'est important d'en avoir une trace ensuite pour la journée et pour demain. Hein. Donc vous notez les petites choses. Voilà.
Alors, parmi les dons de l'Esprit Saint, est-ce que l'un de vous serait capable d'en donner quelques-uns? L'amour aussi, oui. Alors, l'amour, c'est le don par excellence. C'est l'Esprit Saint lui-même, c'est le don de l'Esprit. Ami qui se traque, qui se diffracte en fonction, pour lui revenir, en fonction de nos différentes facultés. Voilà. Oui.
D'accord, très bien. La sagesse.
Donc, on a dit, on l'a dit, ensuite, sagesse.
Connaissance.
Connaissance, c'est très proche d'intelligence et sagesse.
Conseil.
Oui, et puis
conseil.
Pardon?
Conseil.
Conseil, très bien. Très bien. Voilà. Alors, il y a encore plusieurs. On en a énuméré quatre, là, oui, il y a quelqu'un qui veut parler? Oui.
Science, sagesse, 32, force, conseil.
Je crois qu'on les a tous. Je crois qu'on les a tous là.
Crainte de Dieu.
Ah, il en manque
connaissance.
Il en manque un, oui.
Piété.
Pardon?
Piété.
Ça y est, on est en arrière. Voilà.
Bon.
Voilà.
Quoi?
Non, c'est pas ça.
Non, mais j'avais vu ça autre part.
Donc, la tradition de l'Église, comme vous venez de les énumérer, distingue sept dons du Saint-Esprit. Pour cette élaboration, bon, il s'agit d'une élaboration théologique. Voilà. J'ai regardé dans le catéchisme de l'Église catholique, on énumère les dons du Saint-Esprit, mais il n'y a pas, comment dire, d'explication à propos de chacun. Voilà. Alors, ce qui est important, c'est de voir l'enracinement biblique de cette distinction des dons. Eh bien, l'enracinement biblique, c'est une prophétie du prophète Isaïe qui annonce la venue du Messie. Pour retrouver ce passage, vous irez donc dans le livre du prophète Isaïe, au chapitre 11, versets 2 et 3. Je cite donc le prophète, le Messie sur qui reposera l'Esprit du Seigneur, et là nous avons les sept dons, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de vaillance, ou de force, c'est pareil, esprit de science et de crainte du Seigneur, et il respirera la crainte du Seigneur. Alors, à partir de ce doublé crainte du Seigneur, on l'a dédoublé en crainte et piété. Voilà ce qui fait ça. Littéralement, si on se reporte au mot hébreu ruach, esprit, souffle, haleine, voilà, littéralement, ce sont des souffles venant du Saint-Esprit, des motions. Motion, vous comprenez ce que ça veut dire? Une motion? C'est un mot très important dans le langage chrétien, dans le langage spirituel. On parle de motion de censure. Lorsqu'il y a une motion de censure, qu'est-ce qui se passe? Oui, mon exemple n'est pas très très bon. Alors, motion vient du verbe mouvoir. Oui, tu veux dire?
C'est l'Assemblée nationale.
Oui, c'est l'Assemblée nationale, oui, ça se passe. Oui, c'est bon. Donc, il y a un mouvement. Une motion, il y a un mouvement. Il y a un mouvement d'un groupe. Pardon? Donc, motion vient de mouvoir, se mouvoir. Alors, le propre de l'Esprit Saint et des dons du Saint-Esprit, c'est de nous mouvoir très délicatement au plus intime de nous-mêmes. Dans notre âme, si vous voulez. L'âme, l'âme est ce qu'il y a de plus intime, de plus personnel. On parle d'âme ou de cœur. Cœur au sens biblique. Le centre de la personnalité. Le siège aussi de nos facultés. Hein, l'âme. L'intelligence, la volonté, l'amour, les désirs, l'imagination, la mémoire. Hein, voilà.
Alors donc des souffles, hein, des souffles de l'esprit pour nous mouvoir au plus intime de notre âme et de nous-mêmes.
Saint Paul nous dit que l'Esprit Saint habite en nous, nous sommes le temple de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint est à nous. Nous l'avons reçu à notre baptême et il va vous être donné à profusion donc, au cours de votre sacrement de confirmation. Au cours du sacrement de confirmation, vous allez être confirmé dans ce don de l'Esprit Saint, et surtout, ce don va vous être donné en fonction de votre nouvelle situation, vous avez grandi, de vos nouvelles capacités, et de votre rôle, de votre place à jouer dans l'Église. Donc, l'Esprit Saint nous habite, Saint Paul dit, puisque l'Esprit Saint est notre vie, que l'Esprit Saint nous fasse aussi agir. Que l'Esprit Saint nous fasse aussi agir. Voilà. Alors, le rôle des dons de l'Esprit Saint, c'est de surélever nos capacités d'intelligence, de volonté, de les transformer en quelque sorte, de leur donner une nouvelle capacité, intelligence, volonté, de l'intelligence, imagination, amour, désir, mémoire, hein, toutes ces capacités, voilà, pour qu'elles soient mises au service de l'action de l'Esprit Saint en nous. Voilà. Les dons s'appuient sur les vertus théologales. Qu'est-ce qui serait dire quelles sont les vertus théologales, les trois vertus théologales?
Foi, espérance, charité.
Pardon, la foi, très bien, la foi,
l'espérance, charité.
Les trois vertus. Alors, les vertus, vous savez ce que ça veut dire?
Alors, ça, j'ose espérer que vous avez tous ça. On l'a fait il y a 15 jours. Foi, espérance, charité. Ben oui, alors. Tous, marquez-les, les trois vertus théologales, si vous ne retenez que ça dans votre livre, il faut le savoir. La foi, l'espérance et la charité, notez-le tous.
Alors, ces vertus, vertus vient d'un mot grec qui signifie en quelque sorte dynamisme, puissance. Virtus, dynamis en grec, et virtus en latin. Voilà. Les vertus théologales nous haussent, comme les dons, nous haussent pour nous accorder à l'Esprit Saint. Les dons s'appuient sur les vertus théologales de foi, d'espérance et de charité, et leur donnent, à ces vertus, de s'épanouir en une docilité extrême. Un mot très important aussi, docilité. Être docile. Docilité, ça vient de docere, qui signifie se laisser instruire.
Docere. Voilà.
Oui. Ah oui. Alors, Je vais répéter la phrase, c'est plus important. Les dons s'appuient sur les vertus théologales de foi, d'espérance et de charité, et leur donne, les dons du Saint-Esprit donnent à ces vertus de s'épanouir en une docilité extrême, en une perception nouvelle du mystère, perception nouvelle du mystère et des œuvres de Dieu. Les dons du Saint-Esprit sont un épanouissement de la charité pour goûter, très important, pour goûter combien le Seigneur est bon et savourer sa porte, hein, s'appairer sa porte, ça a donné sagesse. Hein. Voilà. La sagesse est une intelligence qui a une perception par l'intelligence qui a du goût, qui est savoureuse. Nous donne de savourer ce qui vient de l'Esprit Saint. Les dons du Saint-Esprit nous donnent une sorte d'instinct, un autre mot très important, une sorte d'instinct pour les choses divines. Vous voyez, il y a des fois où, comment dire, j'ai vraiment le goût des choses de Dieu, de la prière, de l'office divin, de la méditation, de la parole de Dieu. Et puis il y a d'autres fois où je me sens davantage entraîné vers les choses, vers les réalités quotidiennes, et je ne sais pas moi, des choses beaucoup moins nobles. Hein, beaucoup moins nobles. Pardon. Voilà. Alors. Je commence à énumérer, à expliciter les sept dons. Je commence par le don de crainte filiale. Alors, vous voyez que j'ajoute au mot crainte ce mot filial. C'est très important. Le plus important, c'est de bien comprendre que cette crainte de Dieu n'est absolument pas la peur de Dieu. Alors, mettez une croix hein, sur crainte de Dieu égale peur de Dieu.
Lorsqu'on ne sait pas,
ta réponse, lorsqu'on ne sait pas, la crainte de Dieu, c'est une appréhension. C'est notre, on prend conscience de notre petitesse, en présence du mystère de Dieu, de sa grandeur, de sa sagesse, de sa puissance. Voilà. Je cite là quelques paroles de psaume, donc de l'Écriture sainte, qui montrent bien que cette crainte de Dieu n'est pas la peur de Dieu. Par exemple, j'ai cherché le Seigneur et j'ai eu sa réponse. Il m'a délivré de toutes mes craintes. C'est le psaume 34, verset 5, que vous pourrez retrouver dans votre Bible. Un autre passage de la parole de Dieu. En Dieu je me confie et je n'ai plus de crainte. Psaume 56, 5. Et surtout dans l'Épître, donc dans le Nouveau Testament, l'Épître de Saint Paul aux Romains, au chapitre 8, un chapitre fondamental de cette grande Épître de Saint Paul. Vous avez certainement déjà entendu ce texte, il est magnifique. Tous ceux qu'animent l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Donc il s'agit de chacun de nous. Aussi bien n'avez-vous pas reçu un esprit d'esclave pour retomber dans la crainte. Bon, les esclaves aujourd'hui, dans notre monde occidental, du moins, il n'y en a plus, encore que parfois. Au temps de Saint Paul, les esclaves, c'était, j'allais dire, même courant. Hein. Voilà.
En Espagne,
ouais. En Espagne, on a peut-être plus. Vous avez reçu un esprit de fils adoptif qui nous fait écrier Abba. Qu'est-ce que ça signifie Abba?
Père.
Abba, père. Papa.
Abba, c'est pas vous de vie.
Que? Ah oui, bien. Voilà. Il a choisi un très beau mot parce que c'est le petit nom, on peut dire, c'est le petit nom. Et aujourd'hui en Israël, encore aujourd'hui, les enfants appellent leur père Abba. C'est papa. Le don de crainte filiale se rapporte à l'expérience de notre petitesse devant la grandeur de Dieu. Je vous raconterai un petit souvenir, parce que, à propos de chaque don, je vais citer un saint qui me semble illustrer plus particulièrement. Les saints ont tous les dons du Saint-Esprit, qui sont liés entre eux. Hein. Mais bon, à propos de chaque don, je citerai un saint. À propos du don de crainte, je cite Saint Benoît, de crainte filiale. Il s'agit de la crainte filiale, hein, parce qu'il y a la crainte servile et la crainte filiale. Il faut bien distinguer les deux. La crainte servile, j'agis parce que j'ai peur du châtiment. Je ne suis pas libre. La crainte filiale, j'agis parce que j'aime le bien et j'aime celui à qui je fais du bien. Voilà. Alors, la crainte de Dieu, la crainte filiale pour Saint Benoît. J'ai eu l'occasion d'aller à Subiaco. Si un jour vous allez à Rome, ne manquez pas d'aller à Subiaco. Vous allez
à Subiaco ou à Rome?
Subiaco, c'est le lieu où Saint Benoît a commencé sa vie monastique. Il a commencé par être ermite. Vous allez à Subiaco? Dans des grottes. Alors là, il y a un monastère. Vous voyez moi. Pardon. Attendez,
si vous levez les garçons, vous levez la main si vous voulez intervenir.
D'accord. Donc il y a toujours des moines, il y a un monastère aujourd'hui à Subiaco, et j'allais visiter vers ce lieu, je montais là, un chemin très raide, et en cours de route, c'est un lieu magnifique, hein, un lieu splendide dans la montagne, il y a des barres rocheuses, et le monastère, toujours aujourd'hui, est construit à flanc de montagne. Et là, je rencontre un villageois qui me dit en italien « E grande, il nostro San Benedetto, e grande, e grande. » Bon, je pense que tu as compris, hein?
Non.
Il est grand, notre Saint Benoît. Il est grand, notre Saint Benoît.
Ah, d'accord.
Alors, ce que je vais illustrer, c'est le fait que Saint Benoît, qui a tellement mis l'accent sur ce qu'il appelle l'humilité, c'est-à-dire cette conscience de notre petitesse devant Dieu, il est devenu très grand. Il est devenu très grand. Et il illustre magnifiquement cette parole de Jésus. Celui qui s'exalte sera abaissé, mais celui qui s'exalte, pardon, celui qui s'abaisse, qui se fait petit pour servir, pour aimer, celui-là sera exalté. Ce don, on pourrait aussi en parler à propos de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Il inspire la crainte, mais ce que l'on craint est tout ce qui peut nous détourner, voilà, hein, de quelle crainte s'agit-il? C'est de tout ce qui peut nous détourner et nous détacher de Dieu, de ses voies et surtout de son amour. Ce don est un respect aimant, un respect qui aime, qui nous fait éviter ce qui peut déplaire à Dieu, à cause de sa majesté souveraine, sainte, aimante et belle. La crainte du Seigneur est gloire et fierté. Vous voyez, hein, le paradoxe de ce don de l'Esprit. La crainte du Seigneur est gloire et fierté, gaieté et couronne d'allégresse. La crainte du Seigneur réjouit le cœur, donne gaieté, joie et longue vie, dit le livre de l'Ecclésiastique au chapitre 1, verset 11. Le don de piété. Le don de piété. Peut-être parmi les dons qui m'ont le plus éclairé dans les premiers temps de ma vie monastique, c'est ce don de piété. C'est de découvrir. Il faut croire que ce don m'a été donné plus particulièrement parce que j'en avais besoin. J'en avais grandement besoin. Je venais d'un univers culturel. Qui, sur bien des points, de par l'éducation, de par tout l'enseignement que j'avais reçu, vraiment ne me préparait pas à vivre l'humilité, à goûter la sagesse de Dieu. La piété, dit saint François de Sales, ne craint que d'aimer pas assez. celui qu'elle voit tellement aimable que nul ne le peut assez dignement aimer. Bon, c'est de l'ancien français. Hein. La piété ne craint que de n'aimer pas assez celui qu'elle voit tellement aimable. Tellement aimable.
Marqué, hein, don de piété.
Don de piété.
Voilà.
Alors, le don de piété nous donne de découvrir vraiment ce que signifie pour Dieu être notre Père. Découvrir à la fois la grandeur de Dieu, comme je disais tout à l'heure, sa souveraineté et en même temps sa tendresse, sa proximité. Pour moi, ça a été la grande découverte de mes premières années de vie monastique. C'est Jésus qui nous apprend vraiment ce que signifie être père. Voilà. J'allais dire, on ne découvre pas tellement la paternité à partir de notre expérience de la paternité, tout au moins pour les fils, hein, qu'on découvre ce qu'est la véritable paternité humaine en contemplant la paternité de Dieu. Alors, retenez ceci. C'est la conjonction en Dieu à la fois de la grandeur, de la puissance, de la souveraineté et en même temps de la tendresse, de la proximité. C'est la conjonction, donc, pour le don de piété nous fait découvrir ces deux valeurs qui nous semblent antinomiques, opposées, à savoir la grandeur, la souveraineté, la puissance. Et en sens inverse, l'humilité. Un grand théologien a écrit un livre qui s'appelle L'humilité de Dieu. L'humilité de Dieu. L'humilité de Dieu. Sa tendresse, sa proximité. Voilà. Par ce don, l'Esprit nous révèle avec beaucoup de douceur à quel point Dieu est notre Abba, notre Père chéri. Cela est fondamental. Et je crois que nous avons besoin de demander aujourd'hui tout particulièrement ce don. Tout particulièrement. Cette délicatesse filiale rejaillit sur tous les enfants de Dieu. C'est-à-dire qu'à partir de cette connaissance de Dieu, de l'amour paternel de Dieu, nous pouvons, hein, de cet amour de tendresse, de compassion, nous pouvons le reporter, hein, sur tous les enfants de Dieu. Hein.
Important de marquer ça. L'Esprit nous fait découvrir notre Père.
Qui est en vérité notre Père. Qui est en vérité. Voilà.
Nous fait découvrir qui est en vérité notre Père.
Donc, cet amour qui va s'exercer à partir du don de piété à l'égard de ceux dont nous sommes proches, bien entendu, puis de tous les hommes, pour les aimer et les servir. Voilà. Alors là, j'ai pris comme représentant une sainte tout à fait contemporaine. Et peut-être quelqu'un pourrait la partir du don de piété. J'allais dire, je dois une récompense, mais je ne comprends pas maintenant.
Mère Teresa.
Pardon, une sainte contemporaine. Tu brûles. Quelqu'un a dit, Sœur Emmanuel.
Mère Teresa.
Mère Teresa.
Mère Teresa.
Mère Teresa. Alors, voyez, si Mère Teresa a exprimé tellement de compassion à propos de ceux qui étaient vraiment les plus pauvres parmi les pauvres, c'est parce que dans la prière, dans l'adoration, elle contemplait son Abba. Par exemple, elle disait, je ne soigne jamais les pauvres. Je soigne toujours une personne, l'une après l'autre. Elle disait ceci. Cet homme ramassé dans une rue de Calcutta et soigné par elle et ses sœurs. Avant, il vivait comme une bête. Il est mort. Elle a recueilli alors qu'il était mourant. Il vivait comme une bête. Il est mort comme un ange. Il vivait comme une bête. Il est mort comme un ange. Qu'est-ce qui a opéré cette transformation ? Je pense qu'il a senti tout l'amour que lui portait Mère Teresa et sa sœur. En un sens, il n'y avait que lui qui comptait pour elle. Et encore une fois, Mère Teresa a puisé cette compassion cette piété, on peut mettre égal, hein, piété, compassion, hein, à l'égard de notre prochain, à partir de ces longs moments de prière en présence de Dieu notre Père. Je passe au don de science. Par ce don, l'Esprit Saint nous donne un instinct. J'emploie à nouveau ce mot. Alors, instinct, on pourrait l'opposer à réflexion. Voilà. Lorsque j'ai à apprendre à faire un choix, je peux mettre dans deux colonnes le pour, le contre, pour telle ou telle option. Et puis je réfléchis, et puis je vois de quel côté la balance penche. J'ai là un travail de réflexion qui est absolument nécessaire et louable. Et moi, si vous continuez, je m'arrête. J'ai pas de temps à faire. Par ce don, l'Esprit Saint nous donne un instinct. L'instinct, c'est quelque chose qui, immédiatement, voilà, nous fait découvrir. Hein, pour discerner, un mot très important aussi, pour discerner véritablement, écoutez bien, hein, discerner véritablement, alors ça, c'est un don qu'il faut vraiment demander aujourd'hui. Discerner le bien et le mal. Où est le bien, où est le mal? Moi, j'entends dire qu'il y a des jeunes aujourd'hui, pas seulement des jeunes, c'est très grave, c'est très très grave. Qui ne savent plus discerner le bien et le mal. Ils ne savent plus. Hein, voilà. C'est très grand, infiniment grand. Et pas seulement le mal. Alors, remerciez le Seigneur, vraiment remerciez le Seigneur, qui vous a donné des parents, des éducateurs, voilà, qui vous aident à faire ce discernement et ainsi à être heureux. Profondément.
Vous avez tous mis, hein, donc, don de science, réflexion, discerner le bien et le mal.
Le don de science illumine le cœur sur la manière dont aussi, deuxième point, sur la manière dont toutes les créatures sont dans la main de Dieu. Le Saint-Esprit fait goûter la fragilité, la petitesse, mais aussi la dignité des créatures. La dignité des créatures. Qui toutes, aussi infimes soient-elles, viennent de Dieu. Qui toutes les créatures viennent de Dieu. C'est parce qu'elles viennent de Dieu que toutes ont une dignité. Combien sont aimées de lui et gardées par lui. Le don de science est souvent associé à la grâce des larmes. Alors il ne s'agit pas de larmes de tristesse, de désespoir, il s'agit de larmes de joie. Devant ces créatures aimées de Dieu, protégées par Dieu, aimées de Dieu. On peut penser à Saint François d'Assise pour ce don. Mais j'ai surtout noté le curé d'Ars, le Saint curé d'Ars. Il dit ceci qui est très intéressant. Écoutez bien, je le cite dans ses catéchismes. Donc vous avez tous entendu parler du Saint curé d'Ars. Son nom, c'était. Son
Louis
prénom,
Vianney,
son nom,
Jean-Marie Vianney.
Ton prénom?
Vianney.
Jean-Marie Vianney. Je suis sûr qu'il y a quelqu'un qui est là. Ah, voilà. Alors, donc, vous s'appelle Vianney, non? Aucun? Maintenant, c'est un prénom qu'on me donne. Maintenant. Vianney. C'est très beau. Vous n'avez pas un camarade qui s'appelle Vianney?
Si.
Ah, ben voilà. Pardon?
Non, mais
j'ai
pas
l'habitude. Bon, voilà, très bien. Alors, le curé d'Ars disait ceci dans ses catéchismes. L'Esprit Saint est une lumière et une force. C'est lui qui nous fait distinguer le vrai du faux et le bien du mal. C'est ce que j'ai déjà dit. Écoutez, comme ses lunettes, le curé d'Ars avait un enseignement extrêmement concret. Il parlait à des enfants. Comme ces lunettes qui grossissent les objets, le Saint-Esprit nous fait voir le bien et le mal en grand. Avec le Saint-Esprit, on voit tout en grand, entre guillemets, hein, bien entendu. C'est pas d'une vue des yeux, c'est d'une vue avec l'esprit. Hein. On voit la grandeur des moindres actions faites pour Dieu, on voit la grandeur des moindres actions faites pour Dieu et la grandeur des moindres fautes, la gravité des moindres fautes. Le don de force. L'esprit est un esprit de force, mais attention, attention, bien comprendre ce que cela signifie. Il ne s'agit pas de la manière, de cette force à la manière humaine, de puissance contraignante qui écrase, qui, de manière plus ou moins cachée, peut violenter, hein, voilà, ou de ce courage que l'on prête aux philosophes stoïciens, hein, je serre les dents, je serre les dents. Voilà. La force que donne l'esprit est celle de la patience, de la patience. En ce moment, je me dis que la vertu qui est la plus nécessaire pour vivre dans une communauté est la vertu de patience. Bien entendu, une patience qui exprime l'amour. Hein, la patience qui exprime l'amour. La patience est un long amour. Peut-être que dans une famille, dans une vie de famille, ce n'est pas très, très éloigné. Donc, l'Esprit Saint, la force, don de force et patience. Fermeté paisible dans l'épreuve. Voilà, très important. L'esprit de force est un esprit qui nous donne de persévérer au milieu des épreuves. Il est cette force. Il est cette force qui transparaît dans la douceur. Douceur, encore une fois. Voyez, non pas la violence, non pas l'agressivité. Une douceur silencieuse et désarmée de Jésus. Écoutez bien, la douceur silencieuse et désarmée de Jésus qui s'exprime tout spécialement à quel moment de sa vie. Douceur silencieuse et désarmée de Jésus
à la croix.
Sur la croix et même avant, oui, au cours de sa passion. Comme un agneau conduit à l'abattoir, comme un agneau qui n'ouvrait pas la bouche, comme un agneau conduit à l'abattoir, il n'ouvrait pas la bouche. Mais attention, ce silence n'est pas un silence d'impuissance. Parce que lorsqu'il s'agit de rétablir la vérité, Jésus prend la parole. Jésus prend la parole. Le don de force nous communique quelque chose de la douceur de l'agneau immolé et vainqueur. Immolé et vainqueur. Représentant. Est-ce que quelqu'un peut avancer à une figure de saint, du passé ou contemporain, qui exprime tout particulièrement cette vertu de force? Je pense qu'il y en a plusieurs que vous connaissez. Alors, quelqu'un qui est passé ici à Saint-Benoît, une grande sainte, une très grande sainte, tout à l'heure en allant vers la crypte, vous passerez devant une plaque, 1429, que vous êtes. Marché sur Reims.
Jeanne d'Arc.
Jeanne d'Arc. Merci. Cependant, je vais parler de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, qui est plus proche de nous. Sainte Thérèse, et ce don de force éclate d'autant mieux en elle que vous savez combien elle était consciente, et c'était la vérité, de sa faiblesse, de sa petitesse. Il y a cette fameuse grâce de Noël, vous savez, où elle a, je crois, 12 ans. Hein, donc, elle se dirige vers la cheminée, là, et puis son père est en train de préparer Noël, de mettre les cadeaux, et il dit tout d'un coup, il soupire en disant, « Ah, j'espère que c'est la dernière année. J'espère que c'est la dernière année. » Alors, elle entend cette remarque, et les frères éclatent ensemble. Cette raison d'enfant Jésus était d'une extrême sensibilité, et dans son enfant, une sensibilité, il faut bien dire, maladie. Hein, voilà. Et alors là, elle reçoit la force, don de force, qui lui permet de passer l'outre, vous voyez, de vaincre sa déception, de vaincre ses larmes. Hein, voilà. Et puis toute sa vie exprime ce don de force. Toute sa vie. Entrer au Carmel à 15 ans. Entrer au Carmel à 15 ans. Et devant le pape, puisqu'elle a obtenu une audience, non pas privée, hein, mais elle dépend, avoir l'audace d'aller demander au pape, de parler au pape, lequel d'entre vous le ferait. Ah, il y a des mecs. Faut pas présumer. Hein. Pour lui demander l'autorisation d'entrer au Carmel à 15 ans. Et puis, vous savez qu'elle avait deux sœurs au Carmel, hein, deux sœurs qu'elle aimait beaucoup. Et elle dit que plusieurs fois, elle se dirigeait vers la porte de sa grande sœur, qui était prieure, hein, pour aller se faire consoler, pour aller se faire cajoler. Et au dernier moment, hein, elle rebroussait chemin, parce qu'elle prenait conscience que... Très bien, elle prenait conscience... Non, non, c'est pas la force pour frapper à la porte. Hein. Qui a compris? La force intérieure. Hein. Pour
tu fais très légèrement.
N'allez, comme un bébé, n'allez pas se faire, ne pas aller se faire choyer, se faire cajoler, parce qu'elle est démoniale. Voilà. Le don de conseil. Le don de conseil. Et l'amour, encore une fois, vous voyez, l'amour, donc l'amour, le don d'esprit, c'est l'amour, comme disait très très bien quelqu'un tout à l'heure, l'un d'entre vous, mais qu'est-ce qui se diffracte, hein, en fonction de nos différentes capacités, aptitudes, intelligence, volonté, désir, etc. Le conseil est l'amour en tant qu'il nous rend soigneux, attentifs et habiles pour bien choisir les moyens, propre à servir Dieu saintement. Bien choisir les moyens pour servir Dieu saintement. Par ce don, l'Esprit nous inspire, nous donne le sens de la manière dont nous devons nous conduire en tout comme des fils de la lumière. Il nous donne, encore une fois, une docilité intérieure, une écoute de ce qui nous inspire, mais aussi de ce que les autres, l'Église nous demande. Qu'est-ce que c'est le contraire du don de conseil?
Allez.
Plus précisément, qu'est-ce que c'est le contraire du don de conseil? Pardon, vas-y, la vengeance, c'est parfois. Est-ce que quelqu'un peut avancer une idée?
L'individualisme.
L'opposé du don de conseil. Le don de conseil, c'est accepter de recevoir des conseils. C'est accepter d'être guidé.
Individualisme.
Pardon? Guidé, oui. C'est l'esprit propre. Hein? C'est celui qui ne s'en tient qu'à son propre jugement, à ses inspirations personnelles.
C'est plus marqué don de conseil. Don de conseil, docilité intérieure. C'est pas les pages 2, c'est pas les 77.
Alors, je reprends encore un saint à propos de ce don de conseil, c'est le curé d'Ars. Parce que là, j'ai une petite histoire qui va vous faire comprendre tout de suite de quoi il s'agit. On rapporte donc dans la vie du saint curé d'Ars, écoutez bien, un prêtre du diocèse d'Autun, ayant un cas de conscience. Qu'est-ce que c'est un cas de conscience? Qu'est-ce que c'est un cas de conscience? C'est lorsque j'ai à faire un choix, hein, un choix dont les conséquences sont très importantes, hein, et j'ai différents éclairages, j'ai différentes paroles de Dieu, et je n'arrive pas à voir quelle est véritablement, si ça concerne dans une autre personne ou moi-même, quel est véritablement le choix qui correspond à la vérité, au bien de cette personne, de moi-même. Voilà, quelle conscience. Hein. Par exemple, je ne sais pas, j'étais 4 ans de ma vie monastique en Afrique, il y avait des jeunes gens, vous voyez, qui voulaient devenir prêtres, moines, hein, mais ils étaient soutien de famille. Quelle conscience. Qu'est-ce que je dois faire? Rester avec ma mère, parce que le père était mort. Qu'est-ce que je dois faire? Rester avec ma mère pour prendre un métier et aider ma mère à subvenir à mes frères et sœurs, ou entrer au monastère pour servir Dieu. Voilà, c'est quatre consciences. Pas facile, hein? Ouais. Pas facile du tout, hein? Dylan, oui, j'aime pas beaucoup le mot Dylan. Quatre consciences, c'est plus précis. Alors, voilà. Alors, ce prêtre avait quatre consciences. C'est pour lui, on ne précise pas. Il n'arrivait pas à trouver la solution. Il vint à Ars demander conseil au Saint-Curé. Ce fut, déclare-t-il ensuite, comme si un nuage s'était soudainement dissipé. Comme si un nuage s'était soudainement dissipé. Le Saint-Curé d'Ars ne lui dit qu'un mot. Mais ce mot simple et décisif, personne ne lui avait dit auparavant. Alors, ça, ça me rappelle. Bon, moi, je vais finir l'histoire. Il ne l'avait trouvé dans aucun traité de morale. Et pourtant, ce mot répondait à tout. Il jetait une clarté si vive sur le point le plus obscur de la question que le prêtre ne put s'empêcher de se dire à lui-même, il y a quelqu'un qui le conseille intérieurement. Cet homme a un souffleur. Cet homme a un souffleur. L'Esprit Saint est un souffleur. Vous savez, au théâtre, je ne sais pas si ça existe toujours au théâtre, ça existe toujours. C'est aussi le facteur, l'Esprit Saint, retenez ce mot, pour l'Esprit Saint, un souffleur. Attention, l'Esprit Saint, il ne parle pas par des travers des enceintes ici, hein, voilà, hein, des chaînes ici, hein, ou à travers voilà, les instruments que vous connaissez, les appareils modernes que vous connaissez. Il parle au fond du cœur. Qu'est-ce qu'il faut faire pour écouter l'Esprit Saint? Pour faire silence. Pour vous l'invoquer, il faut faire silence. Il faut écouter aussi. Pardon? Oui, la paix. Oui, la paix est un fruit de l'Esprit Saint.
Silence intérieur.
Silence intérieur. La porte du silence intérieur. Alors, je termine l'histoire. Cet homme a un souffleur. On ne saurait mieux dire. Oui, le curé d'Ars avait un souffleur, et ce souffle infaillible, c'était le Saint-Esprit. Alors, plus proche de nous, je mentionne un autre témoin, c'est du pape, dont vous êtes peut-être rendu le nom. Elle n'a pas encore été béatifiée. Ce sera elle, ça, c'est le jugement de lui, il s'appelle Marthe Robin. Marthe Robin. Bon, qui a entendu parler de Marthe Robin?
Moi je connais Muriel Romain.
Alors moi je n'ai pas rencontré, mais tous les frères qui l'ont rencontré disaient qu'elle avait ce don de discernement, de dire un mot, quelques mots qui éclairaient tout de suite la question, qui donnait la réponse à la question qu'on lui posait. Vite.
Il faut bien insister sur Marc Robin. Marc Robin a été paralysé toute sa vie. La seule nourriture, ne me brûlez même pas, la seule nourriture qu'elle prenait, c'était la Sainte Eucharistie.
Oui, j'ai vu.
Et elle revivait la passion du Christ tous les vendredis.
C'est pas qu'il veut dans
le
Même aussi, je suis
le don d'intelligence. Le don d'intelligence. Le patient plein de monde. Quelqu'un peut lire, donc j'ai pu comprendre que vous avez un livret qui vous précise ces dons. Quelqu'un peut lire ce qu'il y a dans son livret, c'est ce don. Alors, don d'intelligence, on est au don d'intelligence. Don d'intelligence, vous ne l'avez pas? Vous ne l'avez pas. Bon,
c'est pour comprendre le dessein de Dieu.
Alors, c'était quoi le don de Marthe Robin?
C'est de dire un mot qui a été
sauvé. Gloire à toi.
Non, c'est la perception.
Gloire à toi, Jésus-Christ.
Chut, tais-toi.
Par le don d'intelligence, l'esprit d'intelligence, ce don nous éclaire, nous donne le sens des réalités de la foi, et tout spécialement de la rédemption et de l'Eucharistie.
On peut se reprendre un petit peu. Voilà, vous marquez, dont l'intelligence nous donne le sens des réalités de la foi.
Voilà. Ce don, malgré l'obscurité de ses mystères, nous donne une assurance aimante, nous fait goûter la beauté de ses mystères. Par exemple, sous l'influence du don de l'intelligence, une âme voit si clairement que Dieu est amour et n'est qu'amour, que rien ne, désormais ne saurait la faire douter de cet amour infini et unique. Pour illustrer ce don, j'ai choisi encore une femme. Alors, pour ce don d'intelligence, si l'on choisissait un homme, un saint, qui vous citeriez? Vous avez un grand choix. Très grand choix.
Saint Grégoire.
Allez. Saint Paul, oui, très bien. Oui, Saint Paul, bien entendu.
Saint Grégoire.
Voilà, plus proche, plus proche.
Ah.
Saint Thomas d'Aquin. Saint Thomas d'Aquin. Théologien, philosophe, un des plus grands docteurs de l'Église. Saint Augustin, Saint Augustin. Pour Saint Louis, je mettrais plutôt le don de force, le don de piété, le don de force, très grand saint aussi. Saint Louis, c'est très très précieux. La figure de Saint Louis est très précieuse. Pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est un homme politique qui a été canonisé. Et c'est très important. Nous avons un immense besoin d'hommes politiques qui soient des saints. Voilà. Il y en a.
Vous
savez peut-être que quelqu'un qui est très proche de nous, qui a été président de conseil, donc premier ministre, Robert Schuman, son procès de béatification est introduit à mort. Je reçois du tout cœur.
Père de l'Europe.
Alors, je choisis encore une femme, Sainte Thérèse d'Avila, qui est docteur de l'Église. Docteur de l'Église. Vous voyez, il n'y a pas que des hommes qui sont docteurs de l'Église. Il y a une autre femme, dont j'ai parlé il y a quelques instants, qui est docteur de l'Église.
Sainte Thérèse.
Une femme dont j'ai parlé il y a quelques instants.
Sainte Thérèse.
Thérèse, non, pas encore Marc Robert, mais Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, qui est docteur de l'Église. Qui est docteur de l'Église. Alors, vous voyez, Sainte Thérèse de Jésus, elle dit ceci, je sais bien comprendre ce qu'est le don d'intelligence. Le mystère de la Sainte Trinité, qui est le mystère des mystères, et d'autres, sont devenus si clairs pour elle, à propos donc de Thérèse de Jésus, sont devenus si clairs pour elle, qu'il n'y a pas de théologien avec qui elle ne soit prête à entrer en dispute pour la défense de si haute vérité. Donc, ce mystère est si clair pour elle, c'est vraiment un don, hein. J'allais dire presque si évident, hein, qu'elle ne craint pas de discuter avec les plus grands théologiens. Alors, ce qui arrive pour nous plus fréquemment, c'est que, à propos de telles paroles de Jésus, que nous avions entendues plusieurs fois déjà, hein, au cours de l'Eucharistie, au cours des réunions de catéchèse, que nous connaissions par cœur, mais qui ne parlaient pas véritablement à notre cœur. Par le don d'intelligence, tout d'un coup, cette parole, c'est clair. Cette parole de Jésus, elle devient vivante pour nous. Elle s'éclaire.
La parole de Jésus, c'est clair. Hein, remarquez, c'est très important. Ça.
C'est vrai.
Elle prend l'intelligence, la parole de Jésus, c'est clair.
Tout d'un coup, elle prend un sens nouveau. Elle devient vraiment une parole de vie. Voilà, elle devient une parole de vie. Donc, de joie pour nous. Elle nous montre le vrai chemin. Elle nous montre le vrai chemin de la vie. C'est ce qui est arrivé à propos des apôtres, vous voyez, à propos du mystère de l'Eucharistie. Certains, après avoir entendu dire Jésus, celui qui mange ma chair aura la vie éternelle. Beaucoup, vous le savez, disent ce langage est trop fort, qui peut l'écouter? Et ils s'en vont. Jésus demande alors à ses disciples, et vous aussi, vous voulez partir, vous aussi? Saint Jean, chapitre 6. Vous voulez partir, vous aussi? Et que répondent les disciples? Seigneur, à qui irions-nous? Seigneur, à qui irions-nous? Notez ça. Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie. Et je suis sûr que si vous êtes ici, eh bien, c'est parce que déjà, le don d'intelligence est dans votre cœur et qui vous fait saisir, ce que Jésus a les paroles, peut-être d'une manière obscure, que Jésus a les paroles de la vie.
Est-ce que vous pouvez répéter
Seigneur, à qui irions-nous? Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Alors, je prends un autre exemple. Là, c'est un païen qui a été éclairé. Au moment de la mort de Jésus, un soldat romain,
oui,
en voyant la manière dont Jésus meurt,
c'est vrai,
déclare,
c'est vrai,
cet homme
et le roi Jésus.
Oui.
Jésus.
Vous rendez compte? De sagesse. Ce don de sagesse est proche du don d'intelligence. Cette sagesse n'est pas n'importe quelle sagesse, mais la sagesse éminente de l'amour. Je l'ai déjà dit, mais vous pouvez le noter à nouveau. La sagesse éminente de l'amour par laquelle le Saint-Esprit nous fait goûter, très important, nous fait goûter et voir intérieurement, bien sûr, combien le Seigneur est bon. Cet esprit de sagesse nous donne de nous livrer à cet amour avec plus de ferveur, de paix, plus d'Esprit Saint, de paix, de joie. Vous voyez, ce don de la sagesse est très important pour des jeunes gens, des jeunes filles qui se préparent à entrer dans la vie religieuse. Vous voyez. Ils ne peuvent pousser la porte du monastère, d'une congrégation religieuse, que si déjà ils ont goûté combien le Seigneur est bon, Et que c'est en se livrant entièrement au Seigneur, à cet amour, qu'ils s'accompliront, qu'ils trouveront la plénitude de la vie, de la joie. Je dois dire que je ne m'en glorifie absolument pas que dans les premières années de ma vie monastique, j'ai fait l'expérience de ce don de sagesse, mais tout frère de la communauté, vous en direz autant. Sans ce don, je n'aurais pas pu m'engager définitivement dans la vie monastique. Alors aujourd'hui, les choses se passent davantage dans l'obscurité. Mais il y a la mémoire, un mot très important aussi pour la Bible, pour la vie chrétienne. On fait mémoire de ces moments où j'allais dire, tout était évident. Et ce sont les dons du Saint-Esprit qui, à certains moments, vous voyez, tout religieux, tout prêtre, tout époux, toute épouse, à un certain moment, a fait cette expérience en présence de celui, de celle, qu'il a choisi, que voilà, c'est évident, c'est avec lui, c'est avec elle que je vais faire ma chose. Pour illustrer ce don, j'ai choisi un saint contemporain, alors qu'il n'est pas de la tradition catholique, mais de la tradition orthodoxe. C'était un moine du mont Athos, qui s'appelle Saint-Sylvain. Un homme extrêmement attachant. Donc il est mort dans les années 50. Saint-Sylvain, il faut traduire Saint-Sylvain. Il était russe, c'était un paysan russe, extrêmement violent, très, très fort, de force physique, très violent. Il s'adonnait à la boisson et un jour, au cours d'une rixe avec un voisin, la bagarre est si violente qu'il aussi il fait le vœu pour se convertir, pour se racheter, pour demander pardon de devenir moine. Il entre donc au monastère du mont Athos. Et là, ce don de sagesse va le remplir. Bon, il y a tous les dons, on peut parler du don de piété, du don de crainte de Dieu, du don d'intelligence. Mais ce que je veux dire, c'est que cet homme si violent, vous voyez, si brutal, si a donné au vice, comme je le disais tout à l'heure, l'esprit de sagesse, qui ne trouvait son bonheur que dans les choses très basses, très très basses, l'esprit de sagesse va lui donner le goût des choses de Dieu. Et l'amour du Seigneur va remplir son cœur. Il avait ce don des larmes. Et continuellement, il dit dans ses écrits extrêmement simples qu'il n'y a que l'Esprit Saint qui peut faire goûter ainsi combien le Seigneur est bon, combien est bon son amour.
Le Seigneur, l'Esprit de sagesse donne le goût des choses de Dieu et combien le Seigneur est bon.
Si vous avez goûté combien le Seigneur est bon, c'est une parole de l'épître de Saint Pierre. J'ai une petite citation, plus la première ou la deuxième. Voilà, une des deux premières épîtres de Saint Pierre. Si vous avez goûté combien le Seigneur est bon. Eh bien, nous avons fait le tour des sept dons. Je termine simplement, parce que nous avons peu de temps et je ne veux pas user de patience, en citant les fruits de l'esprit. Alors le fruit par excellence de l'esprit, c'est le don. Pardon, c'est la
Noter, les fruits
de l'esprit,
c'est vraiment important. Les fruits de l'esprit.
Alors, on les trouve dans l'épître de Saint Paul aux Galates, au chapitre 5, verset 22. Ils sont cités explicitement. Amour, joie, vous avez déjà parlé. Amour, joie, paix. Un mot très important pour la règle de Saint-Benoît, paix, pax, patience, j'en ai déjà parlé, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur, maîtrise de soi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et on en rajoute 3, ça fait 12. On rajoute, si vous m'aidez, alors, l'énumération des fruits, amour, joie, paix, patience, bonté. Vous voyez, derrière tous ces mots, vous pourriez mettre une figure de saint, ou peut-être une figure de proche, hein, qui illustre particulièrement. Je suis sûr que vous avez des figures de proches qui illustrent particulièrement ces dons. Amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur, maîtrise de soi. Et on rajoute justice, paix, Douceur. On pourrait mettre près de douceur, humilité. Hein, humilité. Maîtrise de soi.
Amour. Vous avez constaté les fruits de l'Esprit Saint. Hein. Très important. Amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur, maîtrise de soi, justice, chasteté, humilité. Vous avez tous noté les fruits de l'Esprit ?
Oui.
Attends, il... L'humilité, ça fait partie. Douceur, maîtrise de soi, justice, chasteté, humilité.
Chasteté. Ah, voilà, c'est lui qu'on n'avait pas.
Il y a un très beau passage de l'Épître aux Corinthiens que l'on appelle l'hymne à la charité, qui décrit d'une autre manière ce que signifie aimer en vérité, aimer concrètement. Je suis en train de chercher ce texte, je ne vais pas mettre trop de temps. Chapitre 12. Et on terminera par là. Quelqu'un a une Bible ?
Je mange que sur les toilettes.
Je n'ai pas sur moi.
Donc, Épître aux Corinthiens, chapitre 13.
Et regardez notre poste aussi. Il a une belle tête de joker.
Mauvaise, retour connard,
LPG. Fais regarder tout ce que vous prenez derrière. Fais regarder.
T'es né, ouais.
De qui ? De qui vous parlez ?
Le monsieur qui est assis tout en haut à gauche.
Le prof là, regarde.
Ah non, on est nerveux là.
Hein ? Il est rien.
Écoutez, on termine par là. On termine par là. C'est fondamental. On termine par là. Promis.
Bon, on écoute.
J'aurais beau parler toutes les langues de la terre et du ciel. Le don des langues, c'est aussi un don du Saint-Esprit. Hein. Même si je parle à la terre. Si je n'ai pas la charité, s'il me manque l'amour, je ne suis qu'un cuivre qui résonne, une cymbale retentissante. J'aurais beau être prophète, avoir toute la science des mystères, les dons du Saint-Esprit, et toute la connaissance de Dieu et toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, ce qui n'est pas si mal. S'il me manque l'amour, je ne suis rien. J'aurais beau distribuer toute ma fortune aux affamés, j'aurais beau me faire brûler vif, ce qui est arrivé à des martyrs, Saint-Jean-d'Arc. S'il me manque l'amour, cela ne me sert de rien. Qu'est-ce que ça signifie ? C'est bien Saint-Paul de dire. L'amour prend patience. L'amour rend service. L'amour ne jalouse pas. Ce n'est pas évident dans une vie communautaire. Il ne se vante pas, ne se gonfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne cherche pas son intérêt. Vous savez, dans les circonstances actuelles, bon, je ne précise pas. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'emporte pas. Il n'entretient pas de rancune. Tout à l'heure, quelqu'un a parlé de la vengeance, là. Il n'entretient pas de rancune. Il ne se réjouit pas de ce qui est mal. Très difficile. Ne pas se réjouir du mal. Ne pas se réjouir du mal que fait mon ennemi. Très difficile. Oui. Bienveillance. Pardon. Mais l'amour trouve sa joie dans tout ce qui est vrai, dans ce qui est vrai. Et la conclusion, il supporte tout, il fait confiance en tout, il espère tout, il endure tout. Alors, je vous souhaite une très bonne continuation de votre chaîne.
Merci. À vous aussi.